Vous écoutez RTL.
Il est 9h.
RTL Matin.
Laissez-vous tenter.
Yves Calvi jusqu'à 9h30.
Et un invité exceptionnel pour nous accompagner jusqu'à 9h30, Benjamin Millepied, que je salue à nouveau. Merci d'être avec nous.
Bonjour.
Vous êtes danseur, chorégraphe et depuis quelques mois, vous occupez le poste de directeur du ballet de l'Opéra de Paris. Merci d'avoir choisi RTL et laissez-vous tenter pour détailler le programme de votre première saison à la tête de ce très prestigieux ballet. On va parler de tout ça avec Charlotte Latour et puis très joli cadeau, 32-10. Nous offrirons des places pour assister à une répétition générale du Lac des Cygnes de Tchaïkovski, un spectacle qui s'installera à l'Opéra Bastille à Paris à partir du 11 mars prochain. Benjamin, nous parlerons également danse et cinéma avec Stéphane Boutsock et sa sélection de films qui ont donné envie de danser à plusieurs générations. Il sera question de Fred Astaire ou encore du long métrage d'Alan Parker Fame qui a marqué les années 80.
Laissez-vous tenter.
Je vois commencer à esquisser quelques pas de danse. Je ne sais pas si c'était des pas d'ailleurs. Sur la musique de Femme, tous les styles sont bons pour vous?
Écoutez, il n'y a pas de règle. Hein. C'est-à-dire qu'effectivement, moi j'ai un regard très ouvert sur la danse en général, que ce soit du ballet. D'ailleurs, dans cette première saison, il y a beaucoup de choses vraiment différentes. Hein. Ce qui est intéressant, c'est la force des œuvres. Et il n'y a pas de règle pour faire une belle chorégraphie, finalement.
Vous prenez la tête du ballet de l'Opéra de Paris alors que vous n'en avez jamais fait partie. Comment cela s'est-il passé? Et est-ce que ça, psychologiquement, ça pose problème?
Écoutez, dans mon parcours, j'ai dansé pendant 16 ans dans une grande compagnie de ballet, identique, en quelque sorte, en Amérique, à l'Opéra de Paris. Et puis, j'ai eu la chance de travailler à l'Opéra de Paris 3 fois, en tant que chorégraphe invité. Et j'ai aussi été invité par des grandes compagnies à travers le monde pour chorégraphier des ballets. Donc l'expérience d'une grande compagnie, c'est quelque chose que je connais très bien. Nous, on avait aussi un emploi du temps qui était à peu près 150-160 ballets par an à New York.
Vous êtes en train de me dire même pas peur?
Non, c'est pas du tout ça. Parce qu'il y a beaucoup de choses qui sont différentes. Et,
c'est une institution, hein.
C'est une institution. Il y a 154 danseurs. C'est évident qu'il y a beaucoup de choses à apprendre.
Charlotte Latour, vous êtes penchée sur le cas de Benjamin Millepied et c'est sa relation à la musique qui vous a vivement intéressée.
Oui, vous êtes arrivée à la danse par la musique. Votre maman était prof de danse, vos frères faisaient de la musique autour de vous. Vous avez grandi à Dakar, au Sénégal, où la musique est aussi très présente et on connaît l'importance du rythme et des percussions dans cette musique. En quoi est-ce que ça vous a influencé?
Je pense que déjà, mon approche de la danse n'a pas été... A commencé par la danse classique, a pas été forcé, a pas été. C'est vrai que le désir de bouger est d'abord passé par le plaisir d'écouter la musique. C'est la musique avant tout, je pense, qui a animé mon envie d'exprimer avec mon corps finalement la musique avant tout. Les percussions, c'est sûr que c'est quelque chose c'est pour la danse. De toute façon, on travaille avec le rythme tout le temps, hein, que ce soit Stravinsky, Tchaïkovski, Bach, les rythmes peuvent être très complexes et c'est quelque chose qui est très important d'avoir cet apprentissage de toute façon avec le rythme. Je crois que par exemple à l'école de danse de l'Opéra de Paris, il y a une chose que les danseurs font, c'est les danses de caractère où les rythmes peuvent être plus complexes, les danses russes, les danses d'Ukraine, choses comme ça, ou même les danses traditionnelles françaises. Donc ça fait partie de toute façon
d'alphabet de la danse classique.
Oui, absolument. Enfin, l'étude un petit peu du rythme est quelque chose qui est très très important.
Vous citez Balanchine, danser, c'est donner à voir la musique. Quand vous chorégraphiez, vous commencez par vous plonger dans l'œuvre musicale, dans les partitions ou
pas? Oui, il se trouve qu'effectivement, moi je fais un travail qui est très proche en général de la partition. Il se trouve que c'est la tradition de l'histoire du ballet, hein, puisque au tout début, à l'époque de Louis XIV, les chorégraphes connaissaient la musique, savaient écrire la musique, et ensuite écrivaient leur danse. Donc il y avait un espèce de rapport entre la composition musicale et la composition chorégraphique qui était très fort, et puis on voyait l'un et l'autre au même niveau. Hein. C'est une époque très intéressante, puisque tout ce... tout ce travail ensuite influencé les jardins et l'architecture et tout ça. Donc il y avait ce métier de que ce être chorégraphe, c'était un métier, c'était être artisan, c'était comme être horloger, c'était. Et j'aime beaucoup parler de la chorégraphie comme ça, puisque c'est un métier qui demande aussi beaucoup de techniques. C'est savoir manier un groupe, c'est des mathématiques, et ça fait partie justement. Je pensais que de voir la chorégraphie comme ça, c'est quelque chose qui m'a donné envie en commençant cette première saison de travailler sur une académie chorégraphique au sein de l'Opéra de Paris où on va apprendre ce métier comme on a. Enfin voilà, le savoir-faire du métier chorégraphique. Et je pense que même si on ne peut pas former des génies, hein, on va pouvoir donner des clés qui sont très importantes et voir des pièces d'une qualité, d'une compétence supérieure à l'avenir, dans le ballet. Parce qu'aujourd'hui, finalement, c'est un art qui parfois, on peut penser que c'est un petit peu ringard, ou alors que, par exemple, la musique classique, hein, c'est un art. Au contraire, on imagine, on sait très bien qu'on peut continuer à faire des parties, à créer des œuvres qui seront nouvelles avec des idées nouvelles. Et finalement, la danse classique, c'est pareil. C'est un langage qui est complexe, qui est très beau, qui demande énormément de discipline. Et je pense qu'on pourra toujours imaginer faire des œuvres de notre temps. Voilà.
Vous allez programmer 24 chorégraphes la saison prochaine à l'Opéra. Ça ira de la danse baroque, on l'a dit, jusqu'aux créations contemporaines, avec des grands classiques revisités comme Casse-Noisette.
Un peu ramollo, ce Casse-Noisette. Alors, en tant que nouveau directeur de la danse à l'Opéra de Paris, je ne conteste pas vos choix, juste vous êtes un peu ramollo. Vous montrez clairement que vous ne voulez pas faire briller que les étoiles, vous mettez en avant les autres danseurs aussi, c'est ce que vous venez de faire à l'instant. Vous voudriez qu'il y ait plus de danseurs étoiles, que ce soit un statut plus facilement accessible?
Non. Enfin, être danseur étoile, je pense qu'il faut être au contraire très très exigeant sur la qualité des danseurs dans la maison. Je pense que ça, je peux le dire avec beaucoup de sincérité. J'ai davantage de talent de danseurs avec un très grand potentiel dans cette maison que dans n'importe quelle autre compagnie au monde. Donc la difficulté, c'est au contraire faire en sorte que ces danseurs s'épanouissent, que le répertoire a été imaginé en fonction des opportunités que je peux leur offrir. Et puis, je reviens sur le ballet, c'est-à-dire que ces danseurs travaillent toutes leurs études cette technique de danse classique. Il faut un répertoire qui nourrisse et continue à... Voilà, je pense que les danseurs ne dansent pas de la même manière qu'ils dansaient il y a 10 ans ou il y a 20 ans. On peut bouger encore plus vite, la technique peut continuer à évoluer et le répertoire est là pour continuer à pousser cette technique. Ainsi que les chorégraphes invités doivent non seulement apporter un regard nouveau sur les artistes.
On sent quand même que vous avez envie que ça bouge. Je sens ça dans ce que vous nous dites. C'est-à-dire que vous êtes très respectueux de la maison dans laquelle vous arrivez. Vous avez l'impression que, faut ouvrir les fenêtres?
Non, c'est pas ouvrir les fenêtres. Je pense que c'est vrai que je sens une responsabilité par rapport à la danse classique. Aujourd'hui, la danse classique dans le monde, je pense, a moyen d'aller encore beaucoup plus loin. Il y a des grands chorégraphes, mais je pense que revenir sur cette idée de métier, revenir finalement à cette tradition qui fonde tout le ballet, hein, et son métier, c'est important de remettre un petit peu de l'énergie dedans.
Et nous poursuivons cette discussion avec Benjamin Millepied en compagnie de Charlotte Latour dans un instant.
RTL Matin,
laissez-vous tenter
avec Yves Calvi.
9h10, nous sommes toujours en compagnie de Benjamin Millepied. Vous dirigez le ballet de l'Opéra de Paris. En même temps, vous continuez à chorégraphier. Ça fait pas trop?
Écoutez, non, je pense que c'est justement... je pense que pour moi, les compagnies de ballet, c'est tout à fait légitime qu'elles soient dirigées par des chorégraphes. Parce que justement, dans mon regard chorégraphique par rapport au répertoire et aux danseurs, c'est excitant puisque je suis inspiré par les besoins de la troupe, hein, c'est-à-dire que je vais faire un ballet, le prochain ballet qui va amener des idées, des choses spécifiques à un moment spécifique de la saison, en ouverture de saison, voilà. Enfin, c'est toujours là. Je viens de faire une pièce qui est un duo pour Aurélie Dupont et Hervé Moreau, qui est un cadeau pour sa dernière saison. Donc c'est, voilà, c'est la capacité d'être là, d'être présent. Et au-delà de distributions que je peux faire, je peux tout à fait dire, bon, ben là, il faut qu'on fasse un ballet sur pointe qui soit très rapide, où il y a beaucoup de pirouettes, parce que voilà, la compagnie doit travailler ça, ou des pas de deux difficiles, ou des choses qui vont faire progresser les danseurs. Voilà. Et c'est excitant d'avoir ça en plus, finalement, parce que c'est une véritable inspiration.
Vous avez fondé le LA Dance Project aux États-Unis en 2012. Avec lui, vous avez dansé dans des gares, dans des musées. Vous en aviez parlé d'ailleurs sur RTL. À Paris, on pourra aussi voir la prochaine saison les danseurs en dehors de la scène, à Beaubourg. Ils danseront aussi dans le hall et dans les couloirs de l'opéra en marge des spectacles. Est-ce que le ballet de l'Opéra de Paris est prisonnier de code? Est-ce qu'il a besoin de s'épanouir?
Écoutez, je pense qu'il faut être attentif à ce qui se passe dans le monde de l'art aujourd'hui. Je pense qu'il faut aussi aller vers le public et pas forcément attendre qu'il vienne acheter ses billets et rentre dans la salle de l'opéra pour voir un spectacle. Pour moi, c'est toujours été très intéressant. Je pense que les collaborations avec les artistes visuels, avec des designers, c'est toujours en fait aller vers des publics qui vont peut-être s'intéresser. Par exemple, on fait un ballet avec John Baldessari l'année prochaine. Voilà, c'est un géant de l'art contemporain américain. Je pense qu'il y a tout un public qui sera intéressé, comme peut-être il l'a été pour ma pièce avec Daniel Buren l'année dernière. Donc ça, c'est vrai que c'est un des moyens qui n'est pas le seul, parce qu'au départ, c'est tout simplement pour faire une œuvre qui soit réussie avec des collaborations qui marchent. Mais d'aller vers des publics nouveaux, déplacer la danse dans des lieux un peu insolites, c'est intéressant puisqu'on est dans des décors naturels. C'est vrai qu'on avait fait cette pièce à Los Angeles dans la gare, qui est une sublime gare Art déco des années 20. L'idée d'avoir un orchestre qui était dans une salle et un public avec des écouteurs qui entendaient l'orchestre, et finalement on savait plus qui était ni les passants dans la gare et les danseurs et les chanteurs, c'était une expérience formidable. Donc ça, c'est avoir un peu d'imagination pour utiliser des décors naturels, des endroits un peu insolites.
Alors justement, vous avez notamment délocalisé l'Opéra de Paris. Il y aura d'ailleurs une première à Brest au mois de mai, hein.
Oui, absolument. Je pense qu'il faut, de plus en plus ouvrir aux régions. Écoutez, ça commence à se mettre en place tranquillement. On va le faire davantage, hein. C'est une ville, mais je pense que même l'année prochaine, il y aura davantage de projets.
Et dans cet emploi du temps très rempli qui est le vôtre, vous continuez de vous entraîner chaque jour. Quand est-ce qu'on vous reverra danser?
Écoutez, non, vous ne me reverrez pas danser. Mais
un rôle qui pourrait vous inciter.
Non. Mais je pense que ça fait déjà quelques années. Que, voilà, après, les priorités sont plus les mêmes. J'ai arrêté de danser tôt, tout simplement parce que c'était le moment aussi.
Ah, vous dites j'ai arrêté de danser.
Ah oui, complètement.
Prononcez cette phrase.
Ah oui, complètement. Oui.
Le mythique Sacre du printemps Stravinsky qu'on pourra voir et entendre en décembre prochain avec la chorégraphie de Pina Bausch. Vous avez été danseur étoile du New York City Ballet, vous avez connu une forme de saturation, je crois, là-bas. Vous trouvez que c'était un petit peu une usine à ballet au bout d'un moment, et c'est à ce moment-là que vous vous êtes tourné vers la chorégraphie. La chorégraphie, contrairement à la danse, on n'apprend pas à l'école.
Non.
Et vous en parliez tout à l'heure, vous avez donc choisi de créer cette académie avec le directeur de l'opéra Stéphane Lissner, académie donc pour accompagner les jeunes chorégraphes en devenir. Vous pensez que la transmission, elle manque dans le monde de la danse aujourd'hui?
En tout cas, c'est vrai que bon, voilà, moi j'ai aussi cette expérience américaine où je pense que le manque est encore plus important, le manque de la culture, de l'éducation. Voilà, tout simplement, quand on apprend la composition musicale, on l'apprend, on n'est pas juste musicien et on devient compositeur, il y a un apprentissage. Les beaux-arts, c'est pareil. Il y a toujours une fondation importante. La substance derrière tous les artistes, même qui sont devenus très conceptuels, que ce soit Christopher Wool ou même on peut dire Jackson Pollock, ou vous allez voir Picasso, et on voit au musée Picasso toute l'évolution de cet artiste et par là où ça a commencé. Donc je pense que le ballet a eu un petit peu est isolé, c'est-à-dire que finalement on n'a pas, alors que c'était, je pense, totalement vu comme un métier pendant toutes les premières années en France, le romantisme, Petit Pas, enfin voilà, Balanchine, tout ça, ce sont des chorégraphes qui ont vraiment vu ce travail comme un métier un d'artisan, en fait. Et c'est important de remettre, je pense, le focus sur ça et d'apprendre ce métier. Je pense que voilà, je suis sûr que sur les 154 danseurs, on a des chorégraphes brillants qui vont sortir.
Alors, quel bilan est-ce que vous dresseriez de la danse aujourd'hui? Est-ce qu'elle se porte bien?
Non, mais en fait, si vous voulez, je pense que la danse contemporaine, notamment en Europe et en France, je veux dire qui est le pays qui soutient le plus la danse au monde, hein, parce qu'on a tous ces centres chorégraphiques. Incroyable, c'est quelque chose qui n'est pas du tout, qui n'existe pas dans les autres pays. Vous savez, en Amérique, on n'a pas relancé du tout la danse contemporaine depuis longtemps et longtemps. Hein. Les chorégraphes qu'on connaît, c'est encore les Cunningham, les Trisha Brown, qui ont d'ailleurs, leur compagnie vivait en Amérique grâce à leur tournée en France. Hein. Donc ça, je crois que ça, il y a aucun souci sur la danse contemporaine. Je pense que le ballet a besoin de renouveau, de davantage de ballets de qualité. On a des artistes qui sont des personnalités d'aujourd'hui qui ont autre chose à dire que les danseurs qu'il y a 20 ans. Il faut que les chorégraphes soient non seulement aient une véritable technique et des fondations pour chorégraphier, mais aussi que ce soient des artistes attentifs aux gens qu'ils ont en face d'eux. Imaginez aussi, je pense que ce serait intéressant de voir la narration, ce que c'est qu'aujourd'hui un ballet en trois actes qui va raconter des histoires d'aujourd'hui. Donc je pense que c'est... Oui, moi j'ai envie de mettre le focus là-dessus. Et de toute façon, c'est l'histoire du ballet de l'Opéra de Paris. Voilà, on est une compagnie de danse classique.
Benjamin Millepied, qui dirige ce ballet de l'Opéra de Paris, est notre invité jusqu'à 9h30. Et nous allons vous faire maintenant un très joli cadeau, puisque nous vous offrons des places pour assister à la répétition générale du Lac des Cygnes à l'Opéra Bastille le 10 mars prochain. Répétition générale, vous savez, c'est encore plus intéressant parce que vous allez voir ce que ne voit jamais le public, c'est-à-dire l'ultime moment de grâce avant que ce soit définitivement présenté au public. Vous nous appelez au 3210 et pour cela, il faut d'abord que vous répondiez à la question que vous pose immédiatement Charlotte.
Dans quel pays d'Afrique a grandi Benjamin Millepied?
Voilà, votre réponse au 3210. On retrouve Benjamin Millepied, notre invité exceptionnel, ce matin sur RTL. Après une courte pause, et on va parler danse et cinéma. Là aussi, il y a beaucoup de choses à dire.
RTL Matin, laissez-vous tenter. Avec Yves Calvi.
9h20, on va continuer de parler danse avec notre invité de ce matin, Benjamin Millepied, directeur du Ballet de l'Opéra de Paris, mais aussi à travers le cinéma. Vous êtes bien placé pour savoir que la danse et le 7e art sont parfois très liés, puisque c'est sur le tournage de Black Swan en 2010 que vous avez rencontré votre épouse, la comédienne Nathalie Portman, Benjamin Millepied. Bonjour Stéphane Boutsock.
Bonjour Yves, bonjour à tous.
Vous avez choisi pour nous trois films qui ont donné envie de danser à trois générations.
Alors, trois films très différents. Benjamin, je vous demanderai à chaque fois si c'est un registre petit A que vous aimez et une pédagogie petit B qui vous convient, vous qui avez entre les mains la destinée du plus prestigieux ballet du monde. Alors, premier exemple, apprendre à danser grâce à des icônes de la scène, Ginger Rogers, Fred Astaire, dans le rôle de star de retour sur les projecteurs et sous les projecteurs après une longue absence. On est en 49, le film est signé Charles Walters et s'appelle Entrons dans la danse.
All right, go.
Fred Astaire, Ginger Rogers, comme Gene Kelly ou George Chakiris, hein, un peu plus tard. Est-ce que ça fait partie des modèles qui vous inspirent et qui, d'après vous, peuvent susciter des vocations?
Oui, parce que Fred Astaire, c'était pour Baryshnikov et je pense même pour moi le meilleur danseur qui soit. Voilà, ce qui est incroyable avec Fred Astaire, c'est la facilité. On a toujours l'impression qu'il improvise. Hein, donc c'est cette espèce de grâce, cette élégance incroyable. Et puis la danse de salon, les claquettes, la façon dont tout le pas de deux, l'art du pas de deux avec Ginger Rogers, cette harmonie, cette synchronisation, la façon dont ils se sentent l'un et l'autre, c'est quelque chose qui est fantastique et qui, à une période, a beaucoup inspiré le ballet. Hein, il faut savoir qu'en fait, c'était assez intéressant. À une période, après la Révolution, il y a eu dans la salle de bal de l'Opéra de Paris, de l'ancien opéra, il y a commencé à avoir des bals avec des valses, en fait. Et c'est au début du ballet, donc on dansait vers le roi, donc tout était face au roi, ou quand on dansait l'un en face de l'autre, on se touchait pas du tout. Et en fait, c'est à partir du moment où il commençait à y avoir des valses, où les danseurs échangeaient le poids du corps, et étaient face à face, et se tenaient, que l'art du pas deux dans le ballet a commencé à changer. Donc les danses de salon, c'est quelque chose que je recommande aux danseurs de ballet d'étudier, parce que c'est un art fantastique, et puis là, voilà, on est au summum de la danse avec ces artistes.
Deuxième film, Stéphane, nous passons aux années 80.
En 80, d'ailleurs, 1980. Autre exemple, vous parlez des États-Unis. Ces écoles américaines où l'on apprend, où l'on se forme, où l'on doit se distinguer par son talent et sa volonté de réussir. 80, film d'Alan Parker, Fame.
Il avait un rêve, un but. Vous voulez la gloire ? Eh bien, ça se fait. Et ça se paie chez moi en une seule monnaie, la sueur.
Alors, on entendait le prof de danse dans le film, on appelait à la sueur. Est-ce que vous tenez ce genre de langage à vos danseurs ?
Je suis plutôt... je pense pas, mais il y a un aspect psychologique qui est important. Je pense qu'il faut vraiment donner confiance aux artistes, d'être eux-mêmes. C'est ça surtout qui est le plus important.
Vous n'avez quand même pas l'air très autoritaire comme ça. Pourtant, on a toujours l'image de ces directeurs de ballet.
Il faut savoir l'être. C'est un peu trop tôt. Mais Fame, c'est toute une génération, enfin, de films. C'est vrai que moi, j'ai eu envie de partir aux États-Unis en voyant White Nights, Soleil de nuit, et puis toutes ces comédies musicales.
Flashdance, tous les autres.
Bien sûr. Ouais. D'ailleurs, où est le remake télévision de Fame ? Ils l'ont pas encore fait aux États-Unis, mais je pense qu'on va pas. La série télé Fame va revenir. Je pense que c'est imminent.
On va leur suggérer. Dernier film, Stéphane. Impossible de passer à côté de ce Black Swan dont nous parlions il y a quelques minutes.
Un cauchemar, signé Darren Aronofsky en 2011 sur les écrans, à partir de l'œuvre de Tchaïkovski, Le lac des cygnes, où comment une jeune danseuse va devoir aller au-delà d'elle-même pour décrocher le rôle principal face, alors là, à un prof de danse. On est entre le séducteur et le psychopathe.
Notre nouvelle reine des cygnes, la merveilleuse Nina Sayers.
Regarde sa façon de bouger, sensuelle. Elle ne truque pas.
Séduis-nous ! Attaque ! Attaque ! Allez !
Sans moi, réponds-moi. Ta seule véritable ennemie, c'est toi.
Vincent Cassel dans le rôle du prof, Nathalie Portman dans celui de Nina la danseuse, film dans lequel vous jouiez, vous dansiez, vous avez servi de conseiller technique aussi, me semble-t-il. Des profs comme ça, vous en avez rencontré d'ailleurs des gars, ou des femmes d'ailleurs, violents, déstabilisants, ça existe vraiment ?
Écoutez,
c'était pour nous faire peur ou ça existait ?
Non, mais en règle générale, ça n'existe pas. Je pense qu'il y a, longtemps, il y avait des choses vraiment compliquées dans les compagnies de ballet. Cependant, il y a eu cette tragédie à Moscou il y a maintenant, je sais pas, un an et demi, avec le directeur Sergueï Filine. Où c'est le Far West encore là-bas et c'est tragique. Donc quelque part il y a des stéréotypes, enfin des cas peut-être exagérés, mais des cas qui ressemblent à ces personnages. Ouais.
Le cinéma avec ou sans Nathalie Portman, vous y reviendrez ? Ça vous tente ?
Moi je suis vraiment très intéressé par l'image, je réalise beaucoup de petits films. Je viens de réaliser d'ailleurs 17 portraits d'étoiles qui sont aussi sur les lignes de l'opéra. Donc c'est quelque chose qui m'intéresse beaucoup, la danse à l'écran absolument. Donc je pense que la prochaine étape ce sera de faire un film évidemment où je chorégraphie et je maîtrise la caméra et l'image, parce que voilà, c'est une façon de montrer la danse qui en fait on maîtrise encore plus l'œil du spectateur. Et voilà, je fais de la photo depuis longtemps et c'est absolument dans mes plans, dans mes envies. Je pense que faire des ballets, faire des films, ça fait partie de mes envies créatives je peux pas faire sans.
Il a donc envie de faire du cinéma aussi en tant que metteur en scène, on l'a bien compris. On dit au revoir à Benjamin Millepied dans un instant et on vous gâtera en vous distribuant des places pour aller à l'Opéra de Paris pour le Lac des Cygnes.
RTL Matin,
laissez-vous tenter
avec Yves Calvi.
Moi, je vais vous prescrire une cure de sommeil. Il faut que vous reposiez. Il travaille trop, ce garçon. Et pourtant, il n'est plus à la barre, nous a-t-il dit il y a quelques instants. Alors, je vous rappelle qu'on vous offre des places pour aller assister à la répétition générale du Lac des Cygnes à l'Opéra Bastille. C'est un grand privilège. Ce sera le 10 mars prochain. Mais pour cela, il fallait répondre à la question de Charlotte. Dans quel pays d'Afrique a grandi Benjamin Millepied ? Vous allez nous le dire vous-même, Benjamin Millepied.
Sénégal.
Voilà. Vous avez de beaux souvenirs là-bas ?
Oui, excellent.
Avant de nous séparer, je voudrais juste vous faire écouter une chanteuse qui a du talent. Elle peut chanter des chansons françaises du Béco, par exemple.
La place rouge était vide.
Devant moi marchait Nathalie.
Mm-hmm. Elle avait les cheveux blancs. Mon guide. Nathalie.
J'ai fait chanter Nathalie Portman. Et donc, je voulais que vous entendiez ça avant de me séparer. C'est pas mal, hein?
On était sur la place Rouge, justement, il y a pas longtemps. Bah, voilà.
Merci beaucoup d'avoir passé cette matinée avec vous. Vous avez un gros travail devant vous, hein, parce que votre confrère du palais de la Bastille dit « Le ballet est déjà le meilleur du monde. Nous allons devoir remonter le niveau du lyrique à Paris. » Bon, je sais pas si vous vous rendez compte. Ce que... Ben oui. Bon courage et bon travail, Benjamin.
Merci, merci.
Merci d'être venu nous voir aujourd'hui à RTL. Bonjour, Julien.
Bonjour. On n'est pas à la barre, nous. On est au barreau.
Hein, voilà. Pas mal.
Oui, c'est trouvé que ça ce matin.
Bon, écoutez, je vous ai connu plus en forme.
C'est vrai. En plus, vous me jugez maintenant publiquement. C'est terrible. C'est terrible. Le matin, je passe un examen. Merci et félicitations à votre invité pour cette fantastique carrière.
Bonne journée.
Bonne journée.
Ciao.